La matinale de 19h.
Et bah, c'est une émission qui parle de société,
de politique,
culture alternative.
On va aussi parler de sport, de gens dans la rue.
Et l'actualité en règle générale.
On va peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne.
Voilà, il y aura des invités.
Des sociologues, des invités chercheurs.
Les invités ne diront que des choses intelligentes.
Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Salut à tous, la loi travail, on en parle et on en reparle dans les émissions télévisées, à la radio et même dans la rue, mais qu'en est-il de la fac? Moi je peux vous dire qu'on en parle aussi à l'UPMC de cette loi. Et je peux aussi vous dire que je ne suis pas totalement contre, tout simplement parce que nous avons déjà une économie et un marché du travail à redynamiser, et parce que si ça nous pousse, nous étudiants, à nous surpasser pour pouvoir assurer notre place dans le monde du travail. Je vais pourtant me pencher sur une initiative qui est contre la loi, mais qui est intéressante. Sans doute aurez vu et aperçu les différentes affiches placardées sur les tours 45, 46, 44 à côté de l'Atrium ou à côté du Resto U. Il existe un collectif contre la loi de travail qui s'appelle Jussieu contre la loi de travail. Il mobilise les professeurs de l'UPMC ainsi que des membres du syndicat des professeurs mais aussi les étudiants. En ce qui me concerne, je ne soutiens pas ce mouvement mais j'ai participé à l'Assemblée Générale qui a mobilisé des professeurs et des étudiants de l'UPMC le 28 avril dernier et cela m'a permis d'en savoir un peu plus. Sachant que j'ai découvert ce mouvement par une disco sous qui sensibilisait sur le gaspillage des aliments courant avril. Les gens sont assez sympas et proposent des débats animés autour d'une table remplie de bonne bouffe. Ça, c'est l'aspect plutôt détente. En ce qui concerne l'engagement pur, le mouvement Jussieu contre la loi de travail, c'est surtout un site sur lequel toutes les manifestations, les décisions prises par rapport au projet de loi sont rassemblées. Alors pour tous ceux qui, comme moi, sont mitigés mais curieux, n'hésitez pas à regarder le site loitravail.jussieuenlutte.fr.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
Je vous souhaite la bienvenue sur Fac & Co et je suis accompagné de Julia et Saber et ensemble, nous allons vous accompagner pendant cette émission. Au programme aujourd'hui, la découverte d'un sport insolite avec Saber, une compétition de débat pas comme les autres avec Julia, mais surtout une discussion sur l'entrepreneuriat à la fac.
Thank you very much to our Prime Minister. May I now call upon the leader of the opposition, first speaker from the École Polytechnique, Mr. Guillaume Dubreuil.
Dear Chairman, Your Excellency, Madame la Secrétaire Générale, and indeed, ladies and gentlemen, after hearing Mr. Berger, I must admit, I agree with President Reagan. I must admit, the members of the government are ready to do anything to keep their jobs, anything to carry their political arrangements, any single thing to try to be elected, be it compromising their principles, bending the truth, or even selling their souls. Yeah. Ladies and gentlemen,
Words are all we have. Les mots sont tout ce qu'on a. Ceci était le thème de la finale de 2016 du FDA, le French Debating Association, dont vous venez d'entendre un extrait. C'est justement sur le pouvoir des mots que s'appuient les équipes de débat des grandes écoles et des facs parisiennes qui font partie du FDA. Le FDA donne un sujet et chaque équipe doit défendre ses propres arguments lors d'un débat contre une autre école. C'est ainsi que se déroule un tournoi de débat. Aujourd'hui, on va en parler plus dans le détail avec Julia, qui va mettre l'accent sur le club de débat de Paris 6. Bonsoir Julia. Qu'est-ce que c'est que le FDA ?
Bonsoir Oriental. Certains de nos auditeurs auront certainement vu dans quelques films ou dans quelques séries anglo-saxonnes que dans les facs anglaises et américaines, il existe des clubs de débat qui se confrontent lors de tournois très compétitifs. La French Debating Association, la FDA justement, est née dans le but d'importer ces traditions du débat dans les facs et les grandes écoles françaises. C'est ainsi que la FDA a été créée en 1994. Elle s'inspire donc du style de débat de la House of Parliament au Royaume-Uni et de certains débats de l'Assemblée nationale. Dans chaque débat, on a deux équipes qui se font face. Le government, qui est en faveur du thème proposé, et l'opposition, qui est contraire. Chaque speaker de l'équipe a ensuite droit à 6 minutes pour défendre ses arguments et à la fin, le jury annonce le vainqueur.
Et quelles sont les universités qui composent le FDA ? Est-ce que Paris 6 en fait partie ?
Oui, bien sûr. Il existe une équipe de débat de Paris 6 qui s'entraîne toutes les semaines dans notre fac pour préparer le tournoi. En fait, il faut savoir qu'au début, la FDA ne comptait que 4 grandes écoles. aujourd'hui et compte 20 universités et grandes écoles. Les deux équipes qui arrivent à la fin du tournoi débattent lors de la finale qui se tient à l'hôtel de l'AC à l'Assemblée nationale. C'est ainsi, les finalistes étaient l'ENS et l'Université Paris-Nanterre et c'est Nanterre qui l'emportait.
J'ai envie de te demander comment se déroule un débat en fait.
Alors premièrement, il faut préciser que tous les débats se tiennent en anglais, comme bien sûr cette tradition du débat a été importée des pays anglo-saxons. Chaque équipe ensuite est composée par 5 personnes. L'équipe aura 4 jours, 7 lors de la finale, pour préparer ses arguments de débat avant l'affrontement. Chaque speaker a ensuite 6 minutes pour faire son discours et l'opposition peut poser des questions pour le mettre en difficulté.
Et quels sont les thèmes proposés? Parce que j'imagine qu'on n'a pas parlé de n'importe quoi.
En vrai, tous les types de thèmes sont proposés, donc c'est très très large. On a des thèmes plutôt généraux, on va dire philosophiques, comme « Les mots sont tout ce qu'on a », qui était le thème proposé lors de la finale de 2016, comme on t'a dit tout à l'heure. Ou bien on a des thèmes plutôt sociopolitiques, comme l'abolition de la peine de mort, le droit à l'éducation, etc. Je pense que c'est justement cette variété de sujets qui rend les clubs de débat si intéressants. Je vais vous faire un petit exemple. Imaginons que vous soyez contraire à la peine de mort et que vous faisiez partie de l'équipe qui doit la défendre. Pour gagner la compétition, vous serez forcément obligé de réfléchir aux raisons qui poussent certaines personnes à la défendre. Donc à long terme, cela va vous rendre plus ouvert d'esprit et peut-être plus tolérant envers les opinions des autres.
Justement, qu'est-ce qui rend les clubs de tournois de débat si intéressants à ton avis?
Alors déjà, les clubs de débat se déroulent en anglais. Donc si vous faites partie d'un club de débat, vous allez forcément améliorer votre niveau de langue en anglais. Ensuite, le club de débat reste une activité associative, donc ça va vous permettre de mieux connaître les gens de votre fac ou de votre école, et ça sera probablement plutôt amusant. Enfin, les speakers vont apprendre à développer leurs outils de communication, donc la maîtrise de la voix, la posture, etc. Et vont devenir, on va dire, plus habiles dans l'art de convaincre les autres, ce qui est très utile dans la vie de tous les jours.
Je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont intéressés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut rejoindre une équipe de débat de sa fac?
Alors, pour en savoir plus sur les tournois de débat, vous pouvez vous renseigner sur le site du FDA. Ensuite, si vous voulez rejoindre l'équipe de débat de votre fac, vous pouvez vérifier si parmi la liste des associations de votre fac, il existe une équipe de débat, ce qui est plutôt probable, comme il y en a une vingtaine sur Paris. Enfin, si vous étudiez à Paris 6, rendez-vous sur la page UPMC Union Debating Society. Et pour vous renseigner sur les entraînements qui se déroulent tous les vendredis soirs à l'Atrium.
En tout cas, merci beaucoup Julia pour ces informations très avisées sur le débat.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
On est toujours sur Fac & Co et j'espère que vous êtes bien installés et que tout va bien pour vous. En tout cas, il est temps de passer au sujet du jour, l'entrepreneuriat à la fac. Ce n'est évidemment pas évident d'en parler à la fac alors que la mode est aux incubateurs et dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce. Mais ils l'ont fait. Ils, c'est PMC Entrepreneurs, l'association qui a pour ambition d'être le pont entre la fac et le monde de l'entreprise. C'est une association créée en 2015 à l'UPMC qui a pour but de familiariser les étudiants avec l'entrepreneuriat à travers divers événements. Et pour nous en parler aujourd'hui, je reçois Thomas Janot, président de PMC Entrepreneurs et Amel Messa, membre de l'asso. Bonsoir à vous deux.
Bonjour.
Alors, j'ai une première question à vous poser. On a présenté brièvement l'association. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'association?
Alors, PMC Entrepreneurs, c'est une association qui a pour vocation de démocratiser l'entrepreneuriat sur l'UPMC. En fait, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient à l'entrepreneuriat, qui ne savaient pas vraiment ce que c'était et qui ne savaient pas comment faire en fait pour découvrir l'entrepreneuriat. Du coup, l'association s'est montée au fur et à mesure et on organise au fur et à mesure justement des événements qui permettent aux étudiants de rencontrer des entrepreneurs, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter et peut-être, dans l'idéal, essayer de trouver d'autres étudiants qui en fait ont eux aussi envie de monter un projet, de faire un petit peu d'entrepreneuriat et donc développer ce projet ensemble. C'est une des vocations de l'association.
Tu l'as très bien dit. Vos activités sont diverses, mais quels sont les pôles justement où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice? Quels sont les différents pôles au sein de l'association?
Alors, chez PMC Entrepreneurs, on fait trois choses. Enfin, pour le moment, on en fait surtout deux, on a vocation à faire trois. La première chose, c'est qu'on fait des événements, à savoir des conférences ou des workshops. Lors des conférences, justement, on invite des grands entrepreneurs. Donc, en général, ce sont des CEO, des chefs d'entreprise qui nous parlent de leur expérience, qui nous parlent de leur parcours, qui partagent justement tout ce qu'ils ont vécu pour faire comprendre en fait aux étudiants que oui, c'est possible, on peut aller à l'université et entreprendre, c'est pas que pour les écoles d'ingénieurs. Et donc ça, c'est une des premières choses que l'on fait. On est aussi là pour suivre justement les étudiants qui ont un projet, qui ont une idée, qui ont envie de la développer, mais en fait qui n'ont rien trouvé sur l'université qui puisse les aider, hormis bien sûr Pépite, qui fait déjà tout leur propre accompagnement, qui est très bien d'ailleurs. Et nous, on est là plus pour les accompagner sur le côté vraiment étudiant et apporter un nouveau réseau. Et ensuite, ce qu'on compte également mettre en place, c'est pouvoir permettre aux étudiants en fait, de trouver plus simplement des stages en start-up. Ça, c'est aussi que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Actuellement, quand tu vas à l'université, on demande en général à ce que tu fasses un stage dans une entreprise. On a remarqué qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont envie de faire des stages dans des start-up. Et on s'est dit, voilà, c'est pas du tout les mêmes types de compétences qui sont attendues, les mêmes problématiques. Et donc, on va essayer justement d'aider ces étudiants-là à ne serait-ce que les mettre en relation avec des start-up dans lesquelles ils pourraient travailler et également à faire développer les compétences nécessaires.
Quel est le profil type qu'on doit avoir ? Parce que tu as parlé justement de beaucoup de choses qu'on pouvait faire au sein de l'association, mais quel profil type qu'on doit avoir si jamais on veut en faire partie ? Ou qu'on veut monter sur
sa start-up ? Alors ouais, c'est une très bonne question en fait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois intéressé. Ouais, voilà.
Motivé, je te laisse expliquer, Amel. Non, mais il faut juste croire en gros en gros, avoir juste la touche, être curieux et avoir envie de réaliser des projets, peu importe, avoir de l'imagination, en gros, c'est ça, être imaginatif et vouloir se lancer à fond dans ce qu'on fait.
On repasse justement à vos activités en elles-mêmes. Vous avez parlé de conférences, mais est-ce qu'il y a d'autres événements que vous organisez ?
Cette année, on a organisé un gros événement qui était un peu notre événement phare de l'année, qui était le hackathon. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, un hackathon, c'est un concours en fait, où tu arrives, soit il y a deux types de profils, soit tu es un étudiant qui a déjà une idée, tu as envie de la développer, soit tu n'as pas forcément d'idée, mais tu es plutôt bon dans quelque chose, ne serait-ce que dans un peu tech, ou un peu commercial, ou un peu dans le design. Et c'est un événement qui se passe sur deux jours. Donc des équipes se créent en fait le vendredi soir, et pendant deux jours, chaque équipe va essayer de développer au maximum son projet. Donc justement, les étudiants qui ont des compétences vont se mettre avec les étudiants qui ont des idées. Et l'objectif, c'est qu'à la fin des deux jours, donc le dimanche, les projets sont pitchés en fait devant un jury qui est composé d'entrepreneurs, de professionnels, qui eux vont leur donner leur retour sur le projet, sur ce qui va pas. Mmh. Et donc, celui qu'on a organisé cette année, il y avait trois prix, un prix business, un prix tech et un prix social. Mmh. Et du coup, voilà. Donc, ça permet aux étudiants de travailler tout un week-end ensemble et de développer leurs idées et de discuter vraiment avec des professionnels.
Alors, en parlant de projets, il devait y en avoir qui étaient intéressants. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont marqué ? Et quels ?
Je vais dire le mien, je te laisse dire le tien. Moi, il y a un projet qui m'a pas mal plu, c'est celui de Victoria Roy Stevenson. Un projet qui s'appelle Cassiopée. C'est une des participantes en fait, qui a réussi à développer un prototype complet en un week-end et qui a fait une très bonne étude de marché sur son projet et qui a réussi à très bien pitcher lors du jury. Donc elle a vraiment réussi à se distinguer. D'ailleurs, grâce à son prototype, je crois qu'elle a gagné le prix tech. Voilà, moi, c'est le projet qui m'a le plus marché et donc, qui m'a le plus plus et concrètement ce que c'est un réveil végétal en fait et voilà elle veut apporter en fait un peu de végétation dans la vie de tous les jours et pour le coup j'ai vraiment trouvé ça pas mal.
Moi le mien je me souviens plus du tout du nom du projet exactement mais c'est le principe d'une serre dépolluante. C'est l'équipe de Benoît Gesselin qui avait fait je vois que tu acquiesces qui a fait ce projet et donc le principe c'est une serre dépolluante qui serait mobile et qu'on pourrait déployer au-dessus des routes pour ça serait une sorte de tunnel végétal pour absorber tout le CO2 et les gaz polluants des voitures.
Voilà. Je vais juste poser une toute petite dernière question. Vous avez parlé de pitcher, mais qu'est-ce que c'est un pitch en fait ?
Ah, très bonne question. Donc c'est quelque chose que très peu d'étudiants connaissent. En fait, quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre à présenter ton idée. Et ne serait-ce que pour simplement la vendre, pour trouver des clients ou pour trouver des investisseurs. Et donc, pitcher, c'est avoir la capacité de présenter son idée dans un laps de temps très réduit. C'est-à-dire que voilà, en une minute, il faut que tu aies réussi à transmettre toute la passion, à transmettre toute la valeur, tout le sens que tu proposes à travers ton idée.
Voilà, merci. On va marquer une courte pause musicale et on se rejoint après pour la seconde partie de l'interview avec Thomas et Amel. Ce sera All I Wanna Say de Lontalus. Thank you.
says it'll be alright. And maybe I should lie. All I wanna say is it'll be alright. And maybe I should lie. All I wanna say is it'll be alright. And maybe I should lie. Cause all I wanna say is it'll be alright. And maybe I should lie. Cause all I have to offer is my love. It's not enough. All I have to offer is my love. It's not enough. It's all I have to offer is my love. It's not enough. And all I have to offer is my love. It's not enough. Cause all I have to offer is my love. It's not enough. I should lie. Boy, I'll give you everything. Cause all I have to offer is my love. It's not enough. I should lie. Boy, I'll give you everything. Cause all I have to offer is my love.
C'était All I Wanna Say de Lontalius. Et nous sommes toujours sur Fac & Co avec notre sujet sur l'entrepreneuriat à la fac avec Thomas Janot et Amel Messaoudi. Et Julia a quelques questions à vous poser.
Donc justement, on peut en revenir à l'organigramme de l'asso. Donc on a parlé des différents pôles qu'il y a à l'intérieur, mais pas des acteurs qui agissent justement dans cet asso. Vous pouvez...
C'est-à-dire les partenaires les...
C'est ça.
Ok, alors l'association, nous on travaille beaucoup, donc j'en ai parlé tout à l'heure avec Pépite, avec Pépite Paris. Donc Pépite, c'est pas une association, mais ça descend directement du ministère, et eux, ils sont là pour faire de la pré-incubation, et pour ceux en fait qui ont créé le statut d'étudiant entrepreneur, et ils sont là voilà, pour aider les étudiants à développer aussi leur projet, mais de façon, je dirais, beaucoup plus professionnelle et entre guillemets universitaire. Donc il y a des cours d'entrepreneuriat et ainsi de suite. Bon, ça, on a également des partenariats avec... bon, c'est assez classique, au final, c'est comme toutes les autres associations. Enfin, oui, il y a le Mashup, effectivement. Alors le Mashup, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de différentes écoles, qui est composée d'étudiants de différentes écoles qui font de gros événements sur l'entrepreneuriat. Il y a ça, on a également pas mal de partenariats avec des incubateurs, notamment on a le SenseCube, on a Paris & Co, on a Goranov aussi. Oui, Startup 42. Exactement. Et voilà, et donc nous, ça nous permet, au sein des événements qu'on organise, qu'il y ait des acteurs, qui pèsent dans l'entrepreneuriat à Paris, qui puissent être présents pour apporter justement toute leur expérience.
Et à côté, on a aussi des partenaires associatifs internes à l'UPMC.
Complètement.
Dont Junior UPMC Conseil, qui est une junior entreprise, et le PMC Lab, qui est l'association interne au Fab Lab de l'UPMC.
Ok. Et je sais qu'il existe ce qu'on appelle des mentors à l'intérieur de l'asso. Oui. Quel est un peu leur rôle?
Actuellement, on a trois mentors au sein de l'association. Donc, un mentor, c'est un entrepreneur. Donc, ceux qu'on a, ils ont déjà tous quasiment monté leur boîte. Ils ont une bonne expérience entrepreneuriale. Et en gros, l'idée, c'est de nous, sur les événements qu'on organise, c'est de justement qu'eux, ils soient là pour aider les étudiants qui ont un projet à le développer. Et ne serait-ce que, voilà, si tu as un projet et que tu te rends compte qu'un de nos mentors a essayé de développer de sa boîte dans à peu près le même secteur, potentiellement, il peut te donner des conseils ou des tips. Et pour le coup, c'est vraiment une bonne occasion de donner confiance en fait aux étudiants quand c'est un professionnel tout simplement qui vient de voir et qui dit ouais, ton projet il est vraiment pas mal. Je pense que ça va pas. Essaye de le corriger ou d'aller plus dans cette direction. Ça a plus de chances de marcher. L'idée c'est que les étudiants ils se sentent vraiment accompagnés par des personnes compétentes.
Et justement, toi, Thomas, tu as déjà créé ton propre entreprise.
J'ai participé à la création d'une start-up.
Ok. Et du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées?
Moi, j'ai participé à la création d'une start-up, ça va faire un an maintenant. Je n'y travaille plus actuellement. J'y ai travaillé pendant 8 mois. Les difficultés que j'ai rencontrées, honnêtement, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. Enfin, quand t'es une équipe, on est parti en fait à trois à travailler sur ce projet, donc ça s'appelait Aini, et on était tous les trois hyper passionnés par le projet, on adorait ce qu'on faisait, on adorait travailler ensemble, et donc de fil en aiguille, on a continué à développer le projet, on a gagné des hackathons, on a été incubé, on a été accéléré au ThanksCube, qui est l'accélérateur de Make Sense, qui est juste à Bastille aussi, et pour le coup, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est quand tu montes ta startup, en fait, faut que tu t'assure que ce que tu fais, ça a du sens et de la valeur pour d'autres personnes, pas que pour toi, mais pour des personnes qui potentiellement pourraient utiliser tout simplement ton produit. En fait, je vais peut-être utiliser des termes un peu techniques. Faut que tu trouves ton product market fit. En gros, c'est arriver à trouver, à créer un produit, à créer quelque chose qui plaise à une partie à un customer entre guillemets segment, c'est-à-dire à une section de personnes. Et là, l'idée, c'est de créer de la valeur et tu développes ton produit. Et donc, il faut que tu parles en permanence en fait avec tes clients. Faut que tu t'assures que ce que tu fais, ça leur plaît, qu'ils seront prêts à l'utiliser et ainsi de suite. C'est comme ça que se monte un business. Et donc moi, quand on a monté cette boîte, on était plus au début, c'est-à-dire que voilà, on cherchait encore notre business et à satisfaire nos clients. Actuellement, quand j'ai quitté la plateforme, on avait 1000 utilisateurs avec beaucoup de fonctionnalités, ça tournait bien et la plupart des personnes qui étaient dessus étaient vraiment très très contentes.
Ok, donc du coup, toi t'as pas rencontré beaucoup de difficultés, mais est-ce que tu penses qu'il y a des étudiants qui décident par exemple de ne pas entreprendre le propre projet par peur, par exemple, de la faillite ou d'autres choses ou...
Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je ne suis absolument pas un exemple, en fait, dans le sens où j'ai arrêté les cours pour avoir participé à ce type de projet. Après, moi, je suis développeur de base, donc à côté, je peux quand même travailler en freelance pour pouvoir gagner ma vie. C'est mon parachute. Et c'est vrai que je pense qu'il y a certains étudiants qui ont besoin d'avoir cette sécurité du diplôme, ce qui est complètement normal. Par contre, il faut savoir que travailler pour avoir son diplôme, ça n'empêche pas du tout d'essayer de développer son propre projet. Au contraire, il y en a certains qui arrivent à le faire et en fait les deux vont ensemble. Typiquement dans certaines écoles, il y en a qui y a carrément un master en fait, tout simplement pour l'entrepreneuriat. Je crois pas qu'il y en ait à l'UPMC, il y en a à Sorbonne Université. Et du coup, ouais, je pense que la difficulté quand t'es étudiant, c'est que t'as peur de te lancer en fait. Parce que t'as peur d'échouer. Honnêtement, moi le conseil que j'ai à donner, c'est que t'as que à gagner.
T'as
que des choses à gagner. Pourquoi ? Parce que tu vas rencontrer des gens, tu vas pouvoir partager des points de vue, tu vas faire des rencontres, tu vas vivre des expériences. En fait, tu t'en fous un peu de si ça va vraiment réussir ou pas. C'est quoi dire, mais c'est pas l'objectif qui est important, c'est le chemin pour l'atteindre. Et c'est vrai que pour le coup, quand t'essayes de monter ton propre projet, de le développer avec d'autres personnes, moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus épanouissant de tout ce que j'ai pu faire de la fac, de la prépa ou ainsi de suite.
Ok. Ok. Donc tout à l'heure, tu parlais justement d'un master en entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez, on va dire par exemple lorsqu'on fait un master ou une licence, il y a assez de liens entre le monde académique et le monde du travail? Ou bien on n'est pas assez préparé, on va dire?
Moi, concernant mon avis sur ça, je pars du principe que à l'université, c'est surtout des compétences qu'on amasse. Et au final, c'est, en entreprise, c'est énormément de relationnel qu'on commence à avoir et qu'on commence à apprendre, travailler avec les autres, monter un projet avec plusieurs personnes. On fait certainement face à beaucoup de difficultés par rapport à ça. Du coup, au final, il y a du lien, en fait. C'est juste que faut commencer, selon moi, faut commencer dès l'université, monter des projets avec des amis, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi, et ça peut être super valorisant pour plus tard.
Okay. On va marquer une nouvelle pause musicale avant de commencer la dernière partie de notre sujet consacré à l'entrepreneuriat à la fac. C'était No Goods de Kaleo. Nous sommes toujours sur Fac & Co avec Thomas Jadot et Amel Messaoudi de l'association PMC Entrepreneurs.
La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
Et Saber a quelques questions à vous poser pour cette dernière partie.
Alors bonjour Antal. Donc bonjour Amel et Thomas du coup.
Bonjour.
De ce que j'ai compris, votre association est encore plutôt jeune. Donc de ce fait, elle a encore un peu de marge pour se développer. Du coup, avez-vous des projets ou des points intra-associatifs justement que vous souhaiteriez développer pour l'année prochaine ?
Oui, effectivement, cette année, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait un premier hackathon et on s'est rendu compte qu'on a travaillé avec la Junior UPMC et le PMC Lab. On s'est rendu compte que ça a très bien fonctionné et donc on est en train d'en préparer en fait un deuxième qui aura lieu le 8 et 9 octobre 2016, donc en début d'année prochaine. À côté, moi je vais quitter l'association en tant que président, je vais passer la main, il va y avoir une toute nouvelle équipe encore plus dynamique que celle de cette année qui va prendre le relais. Okay. Et ouais, en interne, on est en train de vous préparer pas mal de belles choses. Je fais un teaser, j'ai pas envie de spoiler.
Dis-nous en pas plus forcément. Mais du coup, on parle de l'association en soi. Mais je pense que vous deux aussi, vous avez quelques projets personnels que vous souhaiteriez réaliser. Toi forcément, vu que tu quittes, peut-être que tu as quelque chose que tu souhaiterais faire qui prendrait trop de temps pour pouvoir encore te consacrer à l'association.
Oui, effectivement.
Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de tout ça tous les deux quoi?
Vas-y, Amel.
Moi je reste quand même dans l'asso l'année prochaine.
Ah ça va.
Du coup je serai toujours dans l'asso. Ouais. Mais en termes de projet, contrairement à Thomas, moi c'est vraiment juste pouvoir entrer dans une start-up pour un peu découvrir tout ce qui est le travail interne dans une start-up qui commence tout juste et qui est toute jeune. Ouais. Depuis que je suis dans cette asso, je découvre pas mal de start-up qui m'intéressent énormément, dont Agricool et Glowy. Donc à voir, mais j'aimerais bien entrer dans l'une d'elles.
D'accord. Et toi, Thomas ?
Donc moi, je vais me mettre à travailler un peu en freelance. Et là, je suis en train de développer un nouveau projet donc avec un associé où on est en train de développer un produit justement pour les startups, en fait, pour resserrer le lien entre les startups, les accélérateurs et les investisseurs. En fait, ça part d'un fait que j'ai remarqué quand nous, Aini, mon ancienne startup, on a été incubé au SenseCube. Moi, j'ai remarqué que le suivi n'était pas super, du moins il pourrait être mieux fait en fait, il pourrait être beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace.
Et tu aimerais l'améliorer justement.
Et exactement, voilà. Okay. Et donc j'ai rencontré en fait une autre personne qui a exactement le même point de vue et qui a des compétences complémentaires aux miennes. Mm-hmm. Et du coup on est très content de se trouver l'un l'autre. Et donc là on est en train de développer, ça va faire environ un mois où on rencontre beaucoup de monde, ne serait-ce que des investisseurs ou des startups, justement pour voir si le problème il est bien réel, s'il y a beaucoup de personnes qui effectivement le rencontrent, et s'il y a vraiment quelque chose à faire, effectivement, là, ça pourrait partir sur le développement d'une start-up.
D'accord. Amel, tu as parlé de deux...
De
deux start-up. Je t'ai pas demandé quels étaient leurs projets, quelles étaient leurs ambitions.
Agricool, c'est une start-up qui est posée à Paris. Vous avez peut-être vu, c'est des containers qui sont près de Bercy Village. Mmh. Et en fait, leur principe, c'est cultiver des fraises en intérieur. Et du coup, des fraises biologiques, sans produits chimiques, rien du tout, dans des containers. Et Glowy, c'est super cool. Vous avez peut-être aussi, vous en avez peut-être aussi entendu parler. C'est en gros, illuminer les villes avec le principe de la bioluminescence. Et du coup, ça permettrait d'éviter la pollution visuelle, lumineuse, pardon.
D'accord.
Dans les villes. Et du coup, voilà, là, ils sont en plein développement, ils sont dans un incubateur. Glowy, ils sont chez 50 Partners. Et il y a Agricool qui est chez The Family déjà depuis un an. Voilà.
Bon, au final, parmi nos auditeurs, il y en a forcément qui sont motivés à l'idée de rejoindre une start-up. Et je pense qu'il y a une grande majorité qui font partie de UPMC. Donc en quelques mots, est-ce que vous auriez quelques conseils à leur donner afin qu'ils puissent en intégrer une ou alors monter leur propre boîte dans le futur ?
Fonce.
Fonce.
Juste pas réfléchir et y aller, hein. même s'ils trébuchent, même s'ils se trompent.
Ça sera une expérience à ajouter.
S'il a vraiment envie de le faire, il n'y a rien au monde qui doit l'empêcher de le faire. Enfin, faut vraiment oser, il pourra encore tirer du, entre guillemets, grandi.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, hein, tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et bien avec tout ça, nous n'avons plus de secret pour la passerelle entre la fac et l'entrepreneuriat. Elle s'appelle PMC Entrepreneur et aussi sur le monde associatif. En tout cas, je vous remercie Amel et Thomas pour avoir répondu à nos questions.
Venez vite ce soir, c'est l'aventure. Y'a assez de place ici pour vous. Comme on est sympa, un peu casse-cou, on va s'amuser beaucoup. Nous les papalous, nous les papalous, nous vivons la vie, là tout près de vous. Nous les papalous, on commence à jouer. Dès que le soleil est venu vous chercher, papalous.
C'est toujours ici que ça se passe sur Fac & Co. avec Saber et Julia. Et on va partir à la découverte d'un sportif assez unique, Saber.
Exactement. Et bien dans 2 mois, vous savez, se déroulera au Stade de France la Coupe d'Europe du FA de football masculin. Événement sportif de très grande envergure, forcément. Hélas, pour aujourd'hui, ça m'a l'air un peu trop mainstream pour nous. Du coup, on va se tourner vers quelque chose d'un peu plus underground, quoi. Et du coup, je reçois aujourd'hui Thomas, étudiant en physique à Paris 6, qui a 20 ans. Et qui pratique aujourd'hui depuis 6 ans le yo-yo. Alors tout d'abord, Thomas, bonjour.
Bonsoir.
Ouais, bonsoir, bonjour. Est-ce que tu considères le yo-yo comme un sport ou plutôt comme un loisir occasionnel ?
Alors moi je vois le yo-yo plus comme un loisir, mais on peut voir aussi ça comme un sport ou comme une discipline artistique. Mais moi vraiment j'en fais surtout pour me détendre et me vider la tête.
D'accord. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré autant dans le yo-yo en fait ? Parce que c'est pas quelque chose de commun en soi. Comment tu as rencontré le yo-yo en soi ?
Alors j'ai découvert le yo-yo quand un jour je suis arrivé à l'école et il y avait un copain qui avait un yo-yo qui me l'a lancé à la gueule et je me suis dit « Ah, c'est trop bien !» Et du coup je m'y suis mis et j'ai vraiment accroché parce que c'est vraiment un objet qui n'a aucune limite, juste l'imagination et... Ouais. Et j'ai toujours adoré les jouer comme ça.
Bah, je pense forcément que tu t'es mis un peu plus sérieusement que lui, forcément, vu que tu es parti assez loin avec ton yo-yo. Tu as voyagé, tu m'as dit en 2015, tu es parti au Japon, c'est ça ? Et en 2014, tu es parti à Prague. Du coup, ça t'a fait voyager, du coup, tu es parti beaucoup plus loin que ton pote au yo-yo. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux événements ? Quel type de personnes tu as rencontré ? Est-ce que c'est des personnes comme nous et vous et...
Bah oui, c'est des personnes normales, mais ils sont aussi exceptionnels parce que... La plupart des joueurs de yo-yo que j'ai rencontrés, ils vivent tous des vies incroyables ou alors ils sont bizarres. Enfin, c'est vraiment des gens super marrants.
Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ?
Un exemple à donner ? Bah, par exemple, un de mes amis qui est champion d'Europe actuellement et qui est champion d'Europe, qui est sponsorisé par une grande marque de yo-yo, qui veut gagner sa vie de ça. Il voyage un peu partout. Il fait plein de spectacles en France. Et...
Ah ouais, d'accord, il va transcender le joueur de yo-yo ordinaire, il va devenir professionnel. En fait,
voilà, c'est son objectif.
Ok. Donc, en outre, tu as essayé de convertir du coup tes amis qui n'avaient pas accès au yo-yo, enfin, qui ne voyaient pas yo-yo comme un sport ou une activité intéressante. Est-ce que tu essaies de les convertir et de leur montrer 2-3 petits tours à faire avec ton yo-yo ?
Bah oui, j'essaie. On me demande assez souvent d'essayer d'apprendre certaines figures, donc... Quand il y a des gens comme ça, moi le yo-yo c'est vraiment pas connu en France, donc dès que quelqu'un veut apprendre, bah j'essaie de lui apprendre le plus possible, comme ça il s'y met et ça fera un type de plus.
Ouais.
Et donc voilà.
D'accord.
T'as parlé de voyage et puis de championnat. Comment est-ce que toi tu l'as vécu en fait de l'intérieur, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger ? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement ? Plus que disputer des championnats.
Donc déjà c'est championnat, donc moi j'ai toujours eu un bon esprit de compétition, donc ça m'amuse. Mais aussi j'ai rencontré beaucoup de gens. Là, j'ai pas mal d'amis américains, japonais, israéliens, tchèques, enfin partout dans le monde. Et vraiment on partage cette passion. Et du coup si je vais dans un pays, je suis à peu près sûr de connaître quelqu'un, à voir ce genre de truc.
Et au niveau de tes, des langues et tout ça, ça a dû forcément t'apporter un plus en fait.
Ah oui, ça m'a énormément aidé pour l'anglais parce qu'on communique surtout avec ça et depuis bah, je suis assez fort en anglais, je m'en sors plutôt bien.
Et en tant que pratiquant de yo-yo, est-ce que tu as d'autres championnats à disputer ou est-ce que tu as des championnats que tu vas disputer dans... les mois, les semaines à venir ou...
Alors oui, j'aurai le championnat d'Israël dans 1 ou 2 mois, puis ensuite le championnat de France en août. Et voilà,
Tu penses que tu as quelques chances de victoire ou
Pour le championnat de France, ouais. J'espère.
Et du coup, Thomas, qu'est-ce que tu conseillerais aux éditeurs qui souhaiteraient se mettre à l'actualité, enfin, qui souhaiteraient se renseigner sur l'actualité des yo-yo à l'échelle internationale ou bien simplement s'y mettre un petit peu, s'acheter un petit yo-yo?
Alors, y a certains magasins de yo-yo en ligne, on ne peut pas en trouver dans les vrais magasins, donc on aurait yoyostore.com, il me semble. On a une association française de yo-yo qui s'appelle la France Yo-Yo Association, mais qui est, enfin, si, il est actif, c'est très bien. Et sinon, on a des groupes sur Facebook de yo-yo pour se renseigner, échanger.
Ça veut dire que sur, dans les grandes surfaces, avoir un yo-yo, c'est des yo-yo pas utilisables hein,
Non, c'est très limité.
C'est vraiment de la camelote, quoi. Oui, enfin, de la camelote,
complètement.
Ok.
Bah écoutez, avec ces explications, on a la tête dans les étoiles. Merci beaucoup à Saver et à Yo-Yo Man.
Merci Thomas, écoute.
Merci.
D'autres émissions touchent à sa fin. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec nous. Je vous souhaite une agréable soirée. Et j'en profite également pour remercier mon équipe Julia, Saber, mais également l'équipe de Radio Campus Paris, et plus précisément Thibaut et Tiffany, qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Sans oublier Thomas et Amel, et bien sûr le deuxième Thomas alias Yo-Yo Man. Merci à vous, ciao.